programme sur festivalradiofrancemontpellier.com.
France Inter, la voix est libre.
Il est bientôt 15h04, on retrouve là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Salut Daniel, c'est Sœur Marie-Pierre, une religieuse, pour dire que on est vraiment dans la merde. Je suis vraiment outrée que le Front National ait passé honte à nous, à la France. Et je suis très inquiète pour ma communauté, mes sœurs, où on est de différentes nationalités. Bah, continuez à se bouger, là, parce que là, ça devient grave. Et voilà.
Au fond, tout va bien. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. 60% des Français n'ont pas voté. On leur a bien expliqué qu'il ne fallait pas se déplacer. Le pari est gagné. Le PPE et le PSE peuvent jubiler. Ils co-géreront en toute liberté. Les députés pourront se prononcer favorablement sur le traité. Celui du grand marché, oui, finalement, tout va bien, Régis de Nîmes.
Sale bico, feignant de bamboula, perfide de Niakoué, banquier juif, salaud de pauvre. Ah, ça fait du bien de pouvoir laisser s'exprimer l'extrême droite décomplexée qui sommeille en nous, joyeux français. En se réveillant ce matin dans un pays d'élection en élection toujours plus fasciste, ce qui fout le plus les boules, c'est moins la haine déversée par les électeurs du Front National que leur viscérale connerie à persister à croire que leurs ennemis sont les étrangers, les immigrés, les assistés, les pauvres. C'est-à-dire, en résumé, ce qu'ils sont eux-mêmes. Gentils Français, tant que vous tiendrez l'étranger et le pauvre comme coupable de votre malheur, les riches, les vrais, hein, continueront de dormir tranquilles et repus, avec ou sans petites moustaches, avec ou sans vos prières patriotiques.
Oui, bonjour, chers auditeurs MG, je suis votre émission depuis assez longtemps. Je voulais vous féliciter pour ce que vous faites. J'ai un petit message également à adresser à François, le chef de l'État, pour qu'enfin qu'il se bouge par rapport à la victoire du Front National et qu'il puisse prendre conscience des réalités du prix de la baguette et du peuple français. Voilà. Je vous remercie, bonne journée à tous et j'espère qu'il pourra méditer cette phrase.
Ouais, salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux. Bah ça y est, on y est. C'est la grande vague, hein, le raz-de-marée, tout ça et tout. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et on est tous un peu fautifs, hein, à la gauche de la gauche, parce que il n'y a pas d'unité, chacun gère sa petite boutique tranquillement, essaye de baiser l'autre, et problème, les baisers, c'est les électeurs. C'est nous, les pauvres mecs, là, qui savent pas s'ils vont voter Front de Gauche, NPA, Lutte Ouvrière, hein. On sait pas. Et puis, par contre, après, ben, on ramasse parce que les autres en face, eux, eh ben, ils s'arment. Et nous, on est comme des cons. S'il n'y a pas d'unité, ça fait 30 ans qu'on le couvre, le Front National, que le Parti Socialiste nous le couvre, hein, parce que c'est grâce au Parti Socialiste qu'on a une situation comme ça, parce que s'il menait une politique de gauche dans ce pays, ça ferait déjà longtemps que le Front National, il serait comme en 83, bah, je veux dire, avant les années 80, rien du tout, hein, et donc c'est bien le problème, et on est vraiment dans une merde. Voilà, salut Daniel.
Un truc qui m'a frappé et qu'aucun commentateur n'a relevé hier soir, c'est le ton particulièrement agressif et les propos très marqués réactionnaires et xénophobes de Marine Le Pen lors de son intervention sur France 2. Comme si, boostée par la légitimité que lui conféraient les résultats, elle en oubliait un peu son entreprise de dédiabolisation de son parti. En fait, son excitation l'a dépassée et on a pu entrevoir hier soir le vrai visage du FN. Et ça devrait faire très peur à tout le monde. C'était Gilles de Normandie.
Salut Daniel, Anthony de Nevers. Hier, 22 mai, nous étions 22 000 cheminots place de la Bastille à Paris pour combattre une réforme du ferroviaire qui va éclater la SNCF en trois et changer la vie de 150 000 cheminots. Mais 22 000 cheminots, ça fait sûrement ridicule, vu qu'aucun média n'a relevé notre présence et notre combat. C'est vrai que le Festival de Cannes et bientôt Roland-Garros, c'est plus important. Vive le service public. Salut Daniel.
Eh ben voilà, on est dévasté, on s'étonne, on panique, on s'indigne. La marée noire a encore monté. C'était quelques taches et puis quelques nappes. Et aujourd'hui, on en a jusqu'au cou. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Bah, quand même, 30 ans de mépris, 30 ans d'abandon, 30 ans de trahison. Du haut des hauts plateaux de télévision, les experts invoquent des causes et des raisons. Depuis 2008, 300 usines ferment chaque année en France. 150 000 usines en friche. Dans ce pays en friche, aussi des femmes, des hommes, méprisée, abandonnée et trahie. Marine s'est contentée de voler. Le constat et le discours de la gauche critique pour les mettre dans la vitrine de sa vieille boutique xénophobe. Et ça marche formidablement. Ça marche formidablement et bien mieux que le train que nous allons prendre aujourd'hui entre Givet et Charleville avec Gaylord Van Wimerch. Il a eu cette idée, il a dit, tiens, moi, je vais aller à Charleville et puis je vais prendre le train jusqu'à Givet et je vais parler avec les gens de ce coin-là, les Ardennes. Alors, vous allez vous dire, ah, oh, les Ardennes, oui, oui, oh là là, là, c'est terrible, ça fait partie de ces zones enclavées. C'est pas bien sûr que ce soit seulement une petite région malheureuse et enclavée, comme ça, il se pourrait bien que ce soit un exemplaire de cette France en friche, méprisée, abandonnée et trahie depuis fort longtemps, cette sous-France. Voilà où on va aujourd'hui, avec pour seule tache de couleur une affiche de Marine Le Pen sur un mur de briques noires. Bonjour la sous-France. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Waouh ! J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que c'était le lendemain d'élection et que le Front National était à 25%. Derrière, l'UMP était à 20% et que la gauche faisait 14%, que l'UDI faisait 10% et que les Verts, ils faisaient que 9%. C'était juste horrible. Et le pire, c'est qu'on était sous une présidence de gauche et que le président, le lendemain de cette élection, il disait « faut en tirer les leçons ». Alors que le mec, ça fait quand même plus de 2 ans qu'il est au pouvoir et que dès le lendemain de ces élections, il aurait dit « putain, c'était horrible, je te jure ». Voilà, heureusement, on n'en est pas là. J'étais vraiment inquiet. Allez, salut.
Salut, Daniel Mermet. Dans ton article là du Monde Diplomatique, tu dis que la radio publique est affranchie des contraintes publicitaires. Ouais, visiblement, t'arrives à couper la radio à 15h58, toi. Salut, c'est Guillaume à Casse News.
Le TER numéro 838 828 en provenance de Givet et à destination de Charleville-Mézières. Départ.
Y'a rien, on nous a proposé de la mer, que ça. C'est épais. J'ai été voir, j'ai été me renseigner. Faut être mobile géographique. Y'a des gens ici-là, ils veulent pas bouger des Ardennes. Faut que le gouvernement ramène du travail sur les Ardennes. C'est tout ce qu'on demande, nous, c'est travailler. Et là, tout le monde est déçu, là. Tout le monde est prêt à faire n'importe quoi.
Le département des Ardennes est aujourd'hui sinistré, très enclavé. Les entreprises ferment les unes après les autres.
En friche, France rasée. Il n'y a même plus de témoignage d'usine. C'est moi la cheminée, le témoignage d'une usine. Il n'y a même plus une cheminée à la vallée de la Meuse.
Et pourquoi enlever les symboles ouvriers?
Vous savez, à Neuzonville, raser la friche, je ne vais pas dire que c'était un slogan, mais le vocabulaire, c'était enlever la verrue.
Enlever la verrue.
Enlever la verrue.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Gaylord Van Wimerch. Bonjour, la sous-France.
Flight number 2, arriving from New York.
6h20 du matin, Charleville-Mézières. Il y a un beau ciel bleu et une belle brume. Il fait froid. En mois de mai, il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Et là, on se dirige vers la gare. On va prendre le train des travailleurs. Il y a un premier train à 5h55. J'ai pas eu le courage de me lever aussitôt pour le prendre. Et là, c'est le train de 6h43. Direction la vallée. Et direction Givet, le terminus de la ligne.
Mesdames, messieurs, bienvenue à bord du TER Champagne-Ardennes à destination de Givet.
Thank you.
toujours les trains qui sont supprimés sur la ligne Charleville, j'y vais, comme nous aujourd'hui. On est toujours coincés, quoi. Allez, on est là, on prend le train de 8h, on a toujours une heure dans le baba, au moins deux fois par semaine.
Vous allez travailler où, là?
Allez, et puis les gens, là, revint. Là, je vais arriver à 8h moins le quart pour le casse-route.
Super. Vous commencez à quelle heure?
7h.
Ah, vous allez arriver une heure en retard.
Une heure en retard, et là, deux fois par semaine, au moins.
Comment? Et le patron?
Le patron, il y a un de ces cas, tu vas me dire, prends le train de 8h, puis tu finiras à 6h. Tu rentreras à 8h à la maison.
Vous prenez la ligne depuis combien de temps?
30 ans. Ouais. La SNCF me loue les sous. Hein.
Vous avez dit quoi?
La SNCF me loue les sous. Hein. Ça fait mal. Et là, il va falloir que je travaille pendant midi. Hein. Au lieu de prendre une heure de casse-route, on va prendre une demi-heure pour récupérer mon heure.
C'est une entreprise de quoi? Vous bossez dans quoi?
C'est la Fontardonnaise.
La Fontardonnaise?
Ouais.
C'est de la métallurgie, c'est quoi?
Ouais.
Alors moi, je travaille chez Electrolux.
Chez Electrolux?
Ouais. Ça revient. Ben nous c'est pareil, hein. Je dois arriver pour 7h.
Là vous êtes en retard parce que vous devez arriver au boulot à 7h et il est 7h05. Déjà.
Voilà, donc on va avoir 3 quarts d'heure de retard. En plus on se permet de perdre de l'argent, déjà le boulot ça va pas trop fort.
C'est-à-dire ça va pas trop fort?
En ce moment on est en plein rachat. Ben moi c'est Electrolux, c'est tout ce qui est fabrication de machines à laver.
Electrolux c'est une des dernières grandes usines dans la vallée.
Ouais, ça fait partie des dernières grandes usines. Ouais. Donc espérons que ça va rester quand même ici.
Ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas?
Moi, ça va faire 14 ans. Ouais. Je vais avoir 32 ans bientôt. Ça fait un an que je prends le train. Avant, je prenais ma voiture pour aller travailler.
Vous ne prenez plus votre voiture?
J'ai pris le train parce que c'était plus rentable. Je gagnais 100 euros par mois, donc voilà.
Ah, c'était moins cher que de mettre de l'essence?
Ça coûtait moins cher que de mettre de l'essence, ouais. Voilà.
Est-ce qu'on dit que la vallée vieillit?
C'est normal. Toutes les usines délocalisent. Les jeunes, ils sont obligés de partir. Ici, il n'y a plus beaucoup de travail. Hein. Les jeunes, ils ont plus le choix. Ils ont plus le choix. Ils partent et puis... Ici, le chômage augmente, et voilà. Que dire de plus?
La vallée, c'est bien s'il y avait plus de boulot, quoi. Mais il y a des beaux points, il y a des trucs à visiter et tout, hein. C'est touristique. Hein. Mais bon, à part ça, après...
Et l'industrie?
L'industrie, c'est mort.
C'est mort?
Ouais.
L'abandon, le mépris, oui, la friche. Ce qu'on raconte là, ces mots que vous entendez, on les a déjà entendus très très souvent depuis quoi, 20 ans, 30 ans. Ça a commencé, disons, il y a à peu près 30 ans. Et on les entend, c'est comme un bruit de fond. Un bruit de fond, de fond sociologique, on pourrait dire, de fond humain. C'est pas une région spécialement enclavée symboliquement pour un pays comme le nôtre. Il y a d'autres régions qui sont dans la même situation, d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres gens surtout qui sont dans cette situation de sentir échouer, sans espoir, sans avenir, sans devenir, sans représentation non plus, qui cherchent quelqu'un, quelque chose qui pourrait les représenter et leur dire, au moins venir les voir et essayer de faire mouvement par rapport à ce désarroi extrêmement profond dans ce pays. Et oui, bien sûr, il y a quelque temps, Nicolas Sarkozy est passé dans le coin pour dire travailler plus pour gagner plus, des choses comme ça. Puis il est reparti, ceux qui voulaient lui parler, lui adresser la parole et lui dire deux mots n'ont pas pu le faire. Et puis voilà, on en est là. Il y a peut-être un lien, non, entre ce qui s'est passé hier et puis cette France-là, cette sous-France. Peut-être qu'il y a un lien, non, vous croyez pas? Ceux qui sont sur ces hauts plateaux de télévision, hauts plateaux de radio, ne prennent pas souvent le petit train de Charleville à Givet. Et pourtant, c'est ce que nous faisons jusqu'à 16h ou presque sur France Inter, là-bas, si j'y suis. Bonjour, la souffrance.
Allez, faut mettre un coup, les gars, là. Plus vite, Charles.
Avec 40 ans, les joueurs, à la clôture, le marché de l'un, le marché de l'autre.
dans un souci d'accroître la compétitivité prix. La firme doit alors tenir qualité, sinon elle perdra des parts de marché.
Conquérir de nouveaux marchés.
La croissance, c'est l'emploi.
Lutter, c'est vivre.
Le problème,
c'est pas compliqué.
Il faut redonner aux Français le goût du travail.
Allez au boulot, là, après que je ne vais rien faire.
Je vais remplir une petite boîte jusqu'à ce qu'elle fasse 500 grammes, tu vois.
La voie 4. C'est là-bas, c'est là-bas. Didier, vous êtes historien.
Oui, spécialiste du mouvement ouvrier, mouvement social, mouvement politique, 19e, 20e siècle.
Alors, voie 4, on prend ce train pour Givet, qui suit la Meuse, c'est ça, c'est un trajet.
Oui, alors Nozonville, Bogny, Monthermé, on va s'arrêter à Revin. Bon, on est dans le noyau, enfin l'ex-noyau métallurgique de la vallée de la Meuse.
Alors Didier Bigorne, quelle est l'histoire de cette ligne de chemin de fer qui fait aujourd'hui Charleville, Givet, mais je crois qu'il y a avant se prolonger jusqu'en Belgique?
Cette ligne, elle est liée bien sûr au passé métallurgique de la région. Il y a eu la métallurgie qui a amené le chemin de fer, et le chemin de fer qui a amené la métallurgie. On l'appelait la Vallée Rouge, alors qu'elle n'a jamais été... En fait, elle était rouge à certains moments de son histoire, hein. Elle est plutôt rose dans l'ensemble. Et ce sont des centaines de personnes qui venaient travailler par le train, parce que bon, on était dans une époque où tout le monde n'avait pas une voiture déjà, et quand on était ouvrier, encore moins. On appelait ce train le train du Far West, parce que ce sont des trains qui avaient ce style conquête de l'Ouest, vous savez, avec des grandes marches. D'ailleurs, c'était un exercice savoureux. Quand on était en retard, on courait en même temps que le train et on sautait
sur le marchepied.
Sur le grand marchepied.
Le train est parti, Charleville-Mézières, on quitte la ville sous le soleil.
Ici c'était une classe ouvrière, au travail dur, c'était la métallurgie.
Fonderie.
Fonderie, donc il y a eu d'ailleurs beaucoup d'émigrés qui ont travaillé. Forte émigration belge au 19e siècle, il y avait à peu près 10% de la population. Ensuite sont venus la période d'après-guerre, beaucoup d'Italiens et de Polonais. Et ensuite, d'origine du Maghreb. D'ailleurs, on a souvent vécu la guerre d'Algérie à travers tous ces gens qui travaillaient dans les usines de Nozonville. Et c'était le plein emploi, on manquait même de main-d'œuvre.
Nous voilà à Nozonville, premier arrêt.
C'est la ville où je suis né, où j'ai grandi. C'est une ville qui était noire de monde. C'était des ouvriers à n'en pas finir, des grosses usines. Alors là, on arrive devant l'ex-friche, c'était encore une friche il y a quelques mois, Tomé Kronbach,
qui est... Une entreprise de quoi?
Alors, il y avait l'acierie, il y avait les forges.
C'était derrière là, maintenant, il y a des palissades, voilà. Des grillages, voilà. Avec des grands panneaux, accès interdit, et effectivement, un terrain qui a été érasé, on va dire.
Alors, ce que vous allez trouver, ça va être impressionnant, parce que c'est plusieurs hectares comme ça. Ça démarre ici, et cette zone de friche va aller jusqu'à la sortie de Nozonville en allant vers Joigny. Alors en face, c'est l'anachronisme, en face de cette friche, de l'autre côté de la Meuse, sur l'autre rive, vous avez le bus de Jean-Baptiste Clément. Dans la France entière, on connaît sa chanson célèbre, Le temps des cerises. Mais bon, Jean-Baptiste Clément, c'était le communard, maire de Montmartre. Mais dans les Ardennes, il est arrivé dans les années 80. Et en 1885, il a créé la Fédération des travailleurs socialistes des Ardennes. Et Jean-Baptiste Clément, l'anachronisme, c'est qu'il fait face à cette friche rasée, alors que toute l'image était justement que Jean-Baptiste Clément regardait auparavant les usines.
Et maintenant, le buste de Jean-Baptiste Clément se trouve face à une friche qui a été rasée.
Voilà, il n'y a plus rien, sur plus d'un kilomètre.
Ça, c'était une usine qui employait combien de personnes?
On était dans les 7-800.
Et vous dites, aujourd'hui, il n'y a plus rien.
La misère est partout. Tenez, regardez, on voit des maisons. Une vallée ouvrière, des maisons qui sont acquises par des simples personnes. Et moi, ce qui me surprend maintenant, c'est qu'on voit à l'état des façades que les gens, même si c'est leur petit bien, n'ont plus forcément les moyens d'entretenir. ça fait mal, parce que ce sont des gens souvent qui ont économisé, qui ont réussi à avoir leur petite maison, mais aujourd'hui ils ont du mal à suivre. Et si vous avez des taux de chômage qui sont impressionnants, qui font peur, il y a des villes qui frisent les 20%, voire qui les dépassent. C'est ahurissant. Avec aucun espoir d'entrer un jour dans une usine, de remettre un lieu de travail pour travailler, ou même de faire autre chose.
Là, on arrive à Revin, justement.
On arrive à Revin, alors ici. Ça, c'est la... c'est le symbole de la souffrance.
On descend ?
On descend. C'était les usines, vous voyez. Ici, c'était les usines.
Là, ces bâtiments en briques à droite.
Tout ça. On voit tous ces. Enfin, ce qui reste. Enfin, ça fait drôle. Ça fait longtemps que je ne suis venu en journée, si vous voulez. Là, c'était une zone où on travaillait, donc il y avait du monde.
C'était animé.
Il n'y avait personne. On a même du mal à rencontrer les gens. Hein.
Il y a quelques personnes, là, quelqu'un qui sort du tabac presse.
Quand je vois tout ce vide. Alors c'est. Ben c'est comme partout dans les Ardennes, quoi.
Là par contre, la zone d'activité, on peut peut-être y aller, c'est le parking du supermarché, de l'Intermarché. Là il y a encore du monde, là. Il n'y avait personne jusqu'à présent depuis la gare.
On va rencontrer des gens, ouais.
Voilà. La grande surface Intermarché pour ne pas la citer, et Bricomarché, une station-service. Il y a un monsieur qui attend avec son caddie.
Intermarché, la radio.
Bonjour monsieur. Vous venez de faire vos courses ?
Oui.
Je fais un petit reportage sur la vallée. On m'a dit qu'il y avait de moins en moins d'emplois.
Moins en moins d'emplois, oui, c'est triste. C'est triste pour le travail ici. Mais il n'y a plus rien. Bon, il y en a que, bon, ils arrivent à l'âge de la retraite. Bon, ça va, mais pour les jeunes, il n'y a plus rien. Ça, c'est vraiment la tristesse. Une ville qui avait quand même, d'après ce que j'entends, plus de 12 000 habitants. Et je crois, d'après ce qu'on est à 7 000 là, quand on voit le nombre de maisons qu'il y a à vendre, c'est une désolation quand même.
Il y a des acheteurs pour venir ici ?
Et non, justement, à part comme des gens comme moi, à la retraite. C'est pour les jeunes qui est à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ici ?
Les gens se sentent abandonnés ?
Oui, moi je pense. Les politiques, il va falloir qu'ils bougent un petit peu. Hein.
Et aux dernières élections, par exemple, présidentielles, il y a 2 ans, vous avez voté quoi ?
J'ai voté pour lui, mais...
Pour qui, lui ?
Ben, vous le savez.
Hollande ?
Ouais. On a pris un bâton pour se faire taper dessus, c'est tout.
Vous êtes déçu ?
Hein ?
Vous êtes déçu ?
Ah ouais, ben, plus que déçu. Plus que déçu.
Et du coup, si c'était à refaire, vous voteriez pour qui ?
Le Pen. Oui.
Vous avez toujours voté à gauche, vous ?
Ah oui, ouais.
Socialiste ?
Ouais, toujours.
Bonjour monsieur, je fais un reportage sur la vallée. Comment ça se passe ici ?
Comme beaucoup d'endroits en France, hein, tout est fermé, on délocalise la plupart du temps. Electrolux, ça part dans les pays de l'Est.
Alors, Electrolux, c'est l'entreprise ici de Revin ?
Ah oui, oui, oui. Ouais, il y a plusieurs années, ils avaient plusieurs milliers de personnes. Vous aviez aussi des établissements Porcher, fermés. Il y avait plein de fonderies, là. Peut-être, je ne sais pas, moi, quand j'étais gamin, il y avait peut-être une vingtaine de fonderies. Il ne reste plus qu'une, la campagne, et puis Electrolux qui est là derrière. Là.
Ah, c'est les bâtiments qu'on voit avant la montagne,
oui,
là ?
Oui, 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 ben, le long de la Meuse.
Vous avez travaillé dans quoi ?
Enfin, j'ai travaillé pour une boîte de JV. J'étais dans le transport, je suis en retraite. Les gens ne veulent plus s'installer là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail du tout, il n'y a plus personne, vous n'avez plus que les retraités. Regardez, avec des vieux, vous allez avoir des histoires. Non, voilà, toutes les grosses usines du coin ont délocalisé. Ça a commencé par l'Espagne, le Portugal, après les pays de l'Est, maintenant les Maghreb. Les gens sont moins payés et eux gagnent plus de sous.
Alors la faute à qui ?
Alors, faut à qui beaucoup l'Europe, hein, on n'avait pas besoin de l'Europe, hein, à mon point de vue. Hein, les pays de l'Est ont fait du mal. Hein. Moi, je vois dans le transport, les prix sont pas compétitifs et tout. Alors maintenant que vous voyez les Lituaniens, les Estoniens qui l'Ukraine, je regrette, mais ils veulent rentrer dans le marché commun. On est déjà dans la merde.
Quand vous dites c'est de la faute de l'Europe, là, il est à côté de Bruxelles, là, on est frontalier avec la Belgique. Vous êtes au cœur, vous, de l'Europe.
Ah oui, moi, au cœur de l'Europe, je vois pas ce que ça nous apporte. Ça nous a apporté toutes les fermetures et les trois quarts de localisation. Hein. Puis c'est tout. Hein. J'espère toucher ma retraite jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, c'est pas évident. Hein. Tout le monde est au chômage. Plus personne cotise. Comment ça va marcher après ?
Il y a beaucoup de chômage ici ?
Ah oui, énormément de chômage. Trois quarts, c'est les chômeurs. Regardez tout le monde ici, c'est...
Est-ce que vous allez voter justement pour les élections européennes ?
Non, je ne vais pas voter. Il n'y a aucun changement. Alors ça sert à rien.
Ça vous intéresse pas ?
Non, pas du tout, non. Non. Voilà. Je vais faire chercher mon pain et puis après, on va aller prendre l'apéro parce que j'ai quand même le droit de boire l'apéro.
Bon, bah, bonne journée, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Vous avez vu, hein, Gaylor, l'apéro, non, il est au boulot. C'est un vrai grand reporter, Gaylor Van Vimersch. On est quand même dans des choses extrêmement simples, extrêmement évidentes. Quand on est dans un endroit comme celui-là, les choses sont simples. On désindustrialise, bon, plus de boulot. Bon, après quoi, un siècle et demi de révolution industrielle, d'installation de l'industrie, de structuration d'une société, d'une culture, disons d'une civilisation. Et puis en quelques années, on casse tout ça, on laisse tout ça, ça s'effondre, sans alternative, sans solution de rechange, sans et voilà des centaines de milliers de Françaises et de Français dans ce pays. On pourrait parler aussi des pays voisins, mais puisque c'est le nôtre, restons là. Totalement échoué, à qui on ne dit rien. Marine Le Pen n'a aucun mérite. Quand on a dit, et redit dans la base, si j'y suis, Marine se fait couler un bain, mais bien sûr, il lui a suffi de mettre dans sa vitrine les idées qu'elle est allée voler dans la gauche critique, qui depuis 20 ans ou 30 ans, effectivement, fait ce constat. C'est une évidence. C'est autant de truisme. Il suffit de venir là. Il suffisait de venir là. Et elle a mis ses idées dans sa vitrine, ses discours aussi, qui sont les discours de la gauche critique. Et puis voilà, pour l'instant, on n'est pas encore ceux qui sont attirés, évidemment, on les comprend, par ces beaux discours. Rentreront ou ne rentreront pas dans cette boutique qui est basée sur la xénophobie et le refus des autres, le refus de l'autre, le refus des autres. On verra. On en est là aujourd'hui dans ce beau pays et dans cette région. Bonjour, la souffrance.
Donc, était sur cours, jeune homme.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je fais un reportage sur Revin et sur la vallée de la Meuse.
La vallée de la Meuse, c'est la catastrophe, mon pauvre monsieur. Tout est fermé.
Ah.
Il n'y a plus d'emploi du tout. Et puis, je ne pense pas que ça va revenir demain. Hein. Ici, à Revin, tout ferme aussi. C'est pas la joie du tout. J'ai une maison de l'autre côté du plateau. C'est pareil, de l'autre côté du plateau, c'est calme.
Vous avez travaillé dans quoi ?
Ben, j'ai travaillé en mécanique. Toute ma vie, j'étais mécanicien. Je suis à 50% de la maladie professionnelle. Pour une bonne raison, c'est que j'ai mangé de l'amiante toute ma vie. Et ça, je ne le savais pas. Je m'en suis aperçu à 58 ans. Donc, j'étais déjà au stade 3. Maintenant, je suis au stade 5.
Vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 65 ans. Bon, mais là, ça faisait bientôt 4 ans que je me battais pour un de mes collègues, qui était donc plus grave que moi, il était dans l'amiante aussi. Là, il vient de s'en aller il y a 3 semaines de ça. Il n'a pas tenu de choc, quoi. Il y a beaucoup de gens qui meurent de ça, de l'amiante. Hein. Même des fois, avant. Hein. Ils sont pas en retraite, qu'ils sont déjà morts. Hein.
Vous gagnez combien à la retraite ?
J'ai même pas 1000 euros par mois, les deux retraites.
Et du coup, pour vivre, là, vous avez votre panier de courses, vous allez acheter quoi?
Ah, bah voilà. Du fromage, du beurre, un peu de fruits, du poulet, du saucisson, une boîte pour les chats. Mais faut regarder le calendrier un peu tous les jours, voir ce qu'on a dépensé, pour voir à la fin du mois qu'est-ce qui nous reste.
Et vous avez dit, la région, il n'y a plus rien.
C'est les patrons, ils en ont profité de trop, en fait. Quand les patrons arrivent juste, et puis qu'ils n'en mettent plus dans leur poche, ben on ferme la boutique, et puis au revoir, monsieur, dame. Hein. C'est ça. Hein. Bon, l'Europe, c'était une grande plaisanterie pour la délocalisation de toutes les usines. Même pas seulement ici dans les Ardennes, mais partout en France, je crois. Hein.
Ah, vous pensez que c'était un prétexte pour délocaliser les usines?
Ah oui,
et l'industrie?
Dès le départ de l'Europe, ça a été comme ça. Ouais, ouais.
Pourquoi vous dites ça?
Les Polonais n'avaient pas de travail, donc si vous voulez, ils ont installé une usine en Pologne pour Arthur Martin. Elle est 10 fois plus grande que celle d'ici. Alors celle d'ici, ben, on va la laisser tomber. L'ouvrier ici a perdu tous les droits qu'il avait. C'est l'Europe. Hein. L'Europe, ça fait du mal. Hein. L'Europe, c'était fait pour délocaliser toutes les boutiques qui marchaient bien en France. C'est ce qui s'est passé, oui, bien sûr. Ouais. Depuis le départ de l'Europe, tout ferme.
Et là, vous allez voter, il y a les élections.
Ah oui. Ça, oui, ça va faire du bruit, à mon avis.
Vous allez voter?
Ah oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous allez voter, je peux vous demander?
Ah, c'est un peu indiscret. Hein.
Vous pouvez me dire?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que même ici à Revin, il y a beaucoup trop d'étrangers. Ils sont en train de nous tuer, ces gens-là. On a des Kosovars, on a des Roms, il y a beaucoup d'Arabes. Il y a plein d'Arabes ici. Et ces gens-là, les trois quarts ne travaillent pas. C'est ça qui tue le commerce et l'industrie aussi. Hein. Je suis 100% contre les étrangers.
Et il y a beaucoup d'ouvriers qui, comme vous, votent Front National?
Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus.
Là, vous êtes dans votre voiture, qu'est-ce que vous voulez me montrer, Francis? Faites voir. Ah, vous avez la carte au Front National. Adhésion 2014. Ah, vous avez adhéré cette année? Vous êtes nouveau militant?
Ils sont partagés entre colère et abattement.
France 3.
Les salariés français du groupe américain Ideal Standard, un des leaders mondiaux de la salle de bain.
14 janvier 2011.
Ils viennent d'apprendre la fermeture de 2 des 3 usines françaises. 311 emplois vont être supprimés.
Dans les Ardennes, des salariés licenciés d'une entreprise mise en liquidation.
14 mars 2008.
Ils multiplient les actions depuis un mois.
Depuis un mois, les salariés de l'entreprise Le Noir et Mernier occupent leur usine en liquidation judiciaire.
Il y a des salariés qui en ont marre, donc il peut y avoir des débordements incontrôlés et que je ne contrôlerai plus.
Toutes les machines se sont arrêtées.
TF1.
Ici, les ouvriers fabriquaient des pièces pour les démarreurs de voitures. Il y a 2 ans, l'entreprise a été rachetée par un groupe américain.
3 novembre 2006.
Mais la semaine dernière, la direction est partie sans rien dire, laissant derrière elle 6 millions de dettes et 320 salariés sans emploi. Avec cette nouvelle fermeture, le taux de chômage dans la ville atteint les 24%.
30 ans d'abandon, 30 ans de mépris, 30 ans de trahison. On est dans les Ardennes, on est à bord de ce train pour Charleville, avec Didier Bigorgue, qui est historien.
Et dites-moi, vous, Didier, vous avez grandi ici. Vous pouvez me parler de votre famille, justement?
Mon père a travaillé pendant 50 ans chez Tommy Krombach, à Nouzenville. Il a commencé à l'âge de 13 ans, ou 12-13 ans. Il a eu un accident du travail, il a perdu un œil.
Et votre mère, elle faisait quoi?
Travaillait à l'usine aussi. Elle était tourneuse, travaillait sur une machine. J'ai vu mon père se lever toute sa vie à 5h du matin. Même avant, il travaillait à 5h. 4h du matin parfois. Je l'ai vu rentrer le soir à 17h, on venait le rechercher pour aller retravailler. C'était la période du plein emploi. Et j'ai vu aussi toute ma vie, ma mère, qui revenait avec des brûlures ici.
Dans le cou.
Les copeaux. Hein, les copeaux de ferraille. Des pièces usinées qui arrivaient tout chaud.
Ah, des éclats qui arrivaient chauds et qui lui brûlaient le cou.
Il y avait cette odeur d'huile à la maison. L'huile de l'usine. Cette odeur d'acier froid. C'est des odeurs qu'on... Ça s'oublie pas, ça. Hein. C'est dans le corps. Moi, j'étais élevé au bruit du marteau-pilon. On emploie le terme « toquer » hein, dans les Ardennes. Ça toquait du matin au soir. Et quand ça toquait plus, c'est qu'il se passait quelque chose. Ou c'était en panne, ou c'était la grève.
Alors là, on est dans cette vallée justement verte, avec des prés de part et d'autre. C'est très vallonné et très vert. Et on va s'enfoncer petit à petit. Là, il y a des vaches et la Meuse. La voie ferrée suit le cours de la Meuse. Et l'histoire de cette vallée, c'est aussi justement la voie fluviale, le rail, et donc l'industrie métallurgique qui s'est greffée sur ces deux modes de transport.
Vous savez, quand j'étais au collège de Nozonville, j'ai toujours entendu parler de mettre la Meuse au gabarit européen. Ensuite, j'étais enseignant et bon, j'ai enseigné ce que j'avais appris comme élève, de mettre la Meuse au gabarit européen. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais la Meuse n'est toujours pas au gabarit européen.
Justement, l'Europe, parce que je crois savoir que le slogan ici du département des Ardennes, c'est « Ardennes, cœur de l'Europe ». L'Europe, vous êtes à côté, vous n'êtes même pas deux heures en voiture de Bruxelles, de la capitale de cette Union européenne, quand même.
Ah, ben, l'Europe, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, a fait beaucoup souffrir les Ardennes. D'ailleurs, les Ardennes ne s'y sont pas trompés. Le nom avait été très fort, le nom à Maastricht, mais le nom à traité européen 2005, oui. A été un nom cinglant aussi. Vous savez, cette Europe, on l'a vu arriver ici, dans les Ardennes. Début des années 70, qui était déjà la fermeture de la sidérurgie française. Donc cette Europe, dès le départ, elle a donné des coups à l'industrie ardennaise, comme d'ailleurs elle a donné des coups à l'industrie lorraine, c'est-à-dire à l'industrie métallurgique au sens large du terme. La politique libérale a donné des coups très sérieux, très forts aux Ardennes, qui d'ailleurs ne s'en relèvent pas. Mais les politiques d'austérité qui s'installent, et puis qui perdurent, on sont en train de mettre à genoux ce département. Ici, on peut dire qu'il y a une grande désespérance. Les gens n'y croient plus, et les gens n'en peuvent plus. Et je ne suis pas sûr que nos dirigeants, puisqu'on revient toujours avec ce mot, dans leur salon parisien ou dans leur bureau parisien, soient vraiment conscients de la situation, pas seulement des Ardennes. La situation est dramatique, mais il y a d'autres régions de France où ça se présente de la même façon.
C'est la France en friche.
Voilà, c'est une France. Il y a plusieurs France. Alors celle-ci, je ne sais même pas où on la met.
C'est quoi, ça veut dire citoyen de seconde zone, de troisième zone?
Troisième, peut-être pire même, je ne sais pas.
Un siècle passé de travail et de crise, un siècle passé de sueur et de fer, un siècle passé comme autant des cerises, un siècle passé à l'ombre de prés verts. Mur gris le long de l'avenue, mur gris de cette usine, mur gris des espoirs déçus, mur gris de poussière et de ruines. Entrer et sortir des milliers de fois et revenir. Entrer, sortir des milliers de fois et repartir. Relève pesante du matin, les outils, le chef, les consignes et le regard de mes copains et ce besoin de rester digne. Peuple du sud, du nord, mêlé, portugais de Mirandela, russe blanc et polonais, rouge et noir venant d'Espagne, garibaldien de Romagne, arabe et sénégalais et des Français de la campagne. La coulée d'acier dans nos veines, la fonte grise, la douleur, la lutte, la joie, la grève, la résistance dans nos cœurs.
Bon là Didier, on va boire un coup dans le bar des sportifs, là on est à côté du centre-ville de Revin. Bonjour.
Messieurs, bonjour.
Un café.
Un petit café.
Oh. Je joue aux courses.
On essaye.
Et on arrive à gagner.
On essaye, mais beaucoup plus difficile.
Je fais un reportage sur la vallée.
Grand débat.
Grand débat.
C'est pas des plus réjouissants.
Vous êtes commerçant ici, vous tenez ce bar, le bar des sportifs, c'est ça?
Café des sportifs.
Café des sportifs.
Ça fait 30 ans que je suis là.
Alors, en 30 ans?
J'ai vu un énorme changement. Malheureusement, pas dans le bon sens. On en arrive maintenant à une ville qui remue beaucoup, beaucoup moins. Après, voilà.
Après, oui, justement. Après,
il faut aller demander ça maintenant à nos dirigeants. C'est eux qui ont peut-être la solution.
Et l'Europe ?
Je suis pas un ardent fervent de l'Europe. Moi. Je crois qu'on a perdu pas mal de pouvoir depuis que l'Europe est là.
Pourtant, je me disais, moi, en venant ici, je suis pas loin de la Belgique, vous êtes frontalier, etc. Moi, je croyais que, justement, c'était presque le cœur de l'Europe, ici.
Non. Non, non. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle nous a ramené. En tant que commerçant, moi, je trouve pas que ça nous a apporté beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est même l'inverse.
Et les gens ici, ça les intéresse, l'Europe ?
Personne n'en parle. Je crois qu'on n'est pas un département qui intéresse le haut de la France, quoi. Nous, on dit, bon, les Ardennes profondes, voilà. La France profonde. On n'est pas un pôle attractif pour eux, je pense.
Vous n'êtes pas assez dynamique, c'est ça ? Pas assez compétitif.
Qui, nous ? Pour être compétitif et dynamique, il faudrait déjà que des entreprises viennent s'installer là.
Pourtant, on dit qu'il y avait une fierté ici dans la vallée.
On est toujours fiers. On est fiers des Ardennais. C'est un département très joli quand il fait beau, attractif, mais qui n'intéresse pas le pouvoir. Enfin, j'espère que ça va aller mieux. Mais après, perso, je peux rien faire. Café, un grand ici. Et un crème ? C'est un crème, toi ?
Vous venez de vous exprimer à l'occasion des élections européennes.
France 2.
Le moment que nous vivons est un moment grave.
25 mai 2014.
Très grave. Pour la France et pour l'Europe. Ce soir, par l'abstention toujours massive, par la percée de l'extrême droite, placée nettement en tête, par le score médiocre des partis de gouvernement, tout particulièrement de la majorité et de la gauche, vous avez exprimé un profond scepticisme. Nous sommes encore, quelques semaines à peine après les élections municipales, dans une crise de confiance. Une crise de confiance, une colère qui rejaillit aussi sur l'adhésion au projet européen. L'Europe a été jugée depuis des années trop distante et trop étrangère aux préoccupations de votre quotidien. L'Europe a déçu, c'est un fait. Vous avez répété votre désarroi. Vous avez dit que les problèmes étaient toujours là et qu'ils étaient trop lourds. Problème pour trouver du travail, pour boucler vos fins de mois. Problème pour nos jeunes, vos enfants, vos petits-enfants à se lancer dans la vie. Beaucoup d'entre vous ont l'impression que leurs efforts ne payent pas.
Le TER, en provenance de Givet et à destination de Charleville-Mézières, départ 13h02, entrera en gare, voie 2.
La petite gare de Revin, faut composter ? Il y a du monde sur le quai, là ?
Oui, il y a du monde aujourd'hui, enfin du monde.
De chaque côté du quai, il y a une trentaine de personnes, on va dire 30-40 personnes. Et Didier, on voit cette ligne de train, les voies qui sont pas très entretenues, en tout cas d'apparence. On voit le balastre là et les traverses de chemin de fer qui sont là. Il y en a une qui est complètement éclatée en bois et des herbes folles qui poussent sur les voies.
Une ligne de chemin de fer très fréquentée mais presque abandonnée par ceux qui devraient l'entretenir. On a l'impression qu'on tourne un film là.
J'ai entendu parler d'une histoire ici à Revin, justement où on est, qui à la fin du 19e siècle a vu un maire ouvrier se présenter face à son patron.
La grève a duré 7 mois, 90-91, chez Ford.
1890-1991.
L'usine Ford, donc les cuisinières Ford, hein, on connaît les machines à laver. À la suite de la grève, il y a eu des élections municipales complémentaires parce que le maire avait démissionné.
Il y a le train qui arrive.
L'ouvrier mouleur Arsène Dupont qui a conduit une liste du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. La liste l'a emporté et donc l'ouvrier est devenu maire. C'était le premier maire ouvrier de l'histoire du département.
Alors, la stratégie pour redynamiser ces zones, c'est le tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transforme les friches industrielles ou les vallées industrielles comme ici en grands parcs touristiques.
Ça ne s'invente pas, le tourisme. On ne vient pas d'une région touristique parce qu'on a décrété qu'on avait des atouts touristiques. Mais encore faut-il qu'il y ait des infrastructures. Tourisme. On a l'impression, quand on prononce ce mot-là, ça va créer des emplois que l'industrie a perdus. Pas rêver.
Et après les fermetures d'usines, on assiste en ce moment, depuis une dizaine d'années, à la fermeture des services publics.
Mais qui dit service public, dit bien ce que ça veut dire. On emploie le mot rentabilité. Mais enfin, si c'est un service public, on ne doit pas parler de rentabilité, on doit parler de rendre service au public. Aujourd'hui, on aligne le service public sur le système libéral. Évidemment, on va trouver tous les moyens à dénigrer ce service, en plus à l'abandonner, comme ça, on peut privatiser. On est dans une spirale, quoi. Il n'y a plus d'usines, donc les gens partent, et alors on prend prétexte à fermer les écoles. C'est toujours le même principe si on parle des écoles. Hein, on va fermer parce qu'il va manquer un élève, mais pour ouvrir, il en faut 10, 12, 15 en plus, quoi. Moi, je me pose la question, où veut en venir le gouvernement actuel ?
Vous voyez une volonté de détruire tous ces acquis, qui sont des acquis, par exemple, du CNR, du Conseil National de la Résistance.
Oui. C'est le sens du libéralisme. Il est temps de relever la tête.
Didier Bigorgne, il s'appelle ce prof, ex-prof d'histoire. Merci à lui, merci à Alain Vergne, à Alexandra Missik. C'était Bonjour la souffrance, un reportage de Gaylor Van Wimersch. La suite, ce sera demain. Vous pouvez lire un livre de Didier Bigorgne, Jaurès dans les Ardennes, aux éditions Priva. Et puis, je vous en ai parlé jeudi dernier, lundi prochain, le 2, de 12h à 20h au Théâtre du Rond-Point, une journée consacrée à l'engagement. Radio France vous avait demandé pour qui, pourquoi êtes-vous prêt à risquer ou à donner votre vie aujourd'hui, et on va consacrer cette journée de lundi prochain au Théâtre du Rond-Point à réfléchir et à analyser les résultats. Pour ce qui concerne là-bas, si j'y suis, nous serons donc de 15h à 15h50 en direct depuis le Théâtre du Rond-Point sur la question cruciale de pour qui, pourquoi êtes-vous prêt à risquer ou à donner votre vie aujourd'hui ? Êtes-vous prêt à mourir pour des idées, à sacrifier une partie ou complètement votre vie à une cause, à une idée ou à défendre quelque chose. C'est des enjeux évidemment très importants dans cette année de commémoration aussi bien de la guerre pour la civilisation, n'oubliez jamais que la Première Guerre mondiale, c'était la guerre pour la civilisation, et puis la Seconde Guerre mondiale, débarquement, etc. On est dans cette ambiance mémorielle et la question de la vie, de l'engagement se pose bien évidemment. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot et Michel Thomas. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain, Là-bas si j'y suis, à 15h, toujours dans les Ardennes. Et tout de suite, on retrouve le camarade Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici ?
Ah, c'est Projection Presse de Être et Devenir de Clara Bellard. C'est un film documentaire qui sort le 28 mai.
Ça parle de quoi, Être et Devenir ?
Ça parle des parents qui choisissent de ne pas scolariser leurs enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met ses enfants à partir de 3 ans à l'école et justement les parents ne continuent à vivre avec leurs enfants après 3 ans et au-delà. Et donc, on se rend compte qu'on peut apprendre aussi en dehors de l'école.
C'est votre cas? Vous n'avez pas mis vos enfants à l'école?
C'est tout à fait ça, ouais.
Bonjour à tous et bienvenue à l'Arlequin, rue de Rennes, à Paris. Et je parle votre prénom?
Valérie.
Et pourquoi vous ne mettez pas vos enfants à l'école? Vous avez peur qu'on leur apprenne des belles choses?
Non, ils y sont allés, donc je pense qu'on sait de quoi on parle quand on fait le choix de ne plus les scolariser. Et justement, on s'est dit qu'à l'école, peut-être qu'on apprenait peut-être effectivement certaines choses, mais que si on ouvrait la porte de l'école et qu'on arrivait dans le monde, eh bien, qu'on allait apprendre encore plus de choses. Et peut-être à un autre rythme, à son propre rythme. Voilà.
Et vous avez combien d'enfants?
7, j'en ai 7.
Voilà, c'est une famille catholique, ça?
Ah d'accord. Vous avez été scolarisé pendant très 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 longtemps, vous. Déscolarisez-vous un petit peu.
Vous avez des clichés plein à la tête.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Non mais vous êtes catholique ou pas?
Moi c'est pas ma réalité du tout. À ce moment-là, il n'y a pas que les catholiques, il y a aussi d'autres religions dans le monde. Donc j'imagine que ça pourrait être aussi le prétexte pour ces religions-là d'appliquer le même principe. Et puis de toute façon, il n'y a pas que la religion qui détermine un choix éducatif.
Oui, et puis dans ce cas-là, ces familles-là, elles mettraient leurs enfants dans les écoles catholiques.
Ouais, mais parfois les écoles catholiques, c'est pas suffisant. Regardez ce qui se passe à Paris, il y a une école, là, oui. Gerson, où c'est pas assez encore. Et voyez.
Par ailleurs, moi, ce qui m'avait surpris en rencontrant des familles catholiques américaines qui étaient venues visiter Paris et qui nous avaient rencontrés, c'est qu'elles se présentaient comme des familles croyantes, pratiquantes. Mais en fait, quand on discutait avec les parents, on se rendait compte que, en fait, c'était surtout l'écoute de l'enfant, le fait de suivre son rythme d'apprentissage qui était le plus important. Et pas, leur foi était importante, c'était quelque chose qu'ils ne cachaient pas, et ça paraissait américain par rapport à ce que nous on vit en France. Mais la base, c'était quand même l'écoute de l'enfant.
Mais vous avez des enfants?
J'ai 3 enfants de 9, 12, 14 ans.
Et ils vont à l'école?
Et elles ne sont jamais allées à l'école.
Ah vous aussi? Mais vous êtes...
Allez, employez le mot qu'il faut.
Non, je suis cerné. Mais il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'en France, l'école n'est pas obligatoire. Il faut délivrer un enseignement... À ses enfants?
Non, il ne faut pas délivrer un enseignement aux enfants. Il faut que les enfants s'instruisent.
Et
s'instruisent par eux-mêmes.
D'accord.
De toute façon, en permanence, puisque une fois qu'ils naissent, leur but majeur dans la vie, c'est de découvrir le monde, d'en apprendre le plus possible sur le monde, les interactions avec les autres, parce que sinon, ils ne pourraient pas survivre. Donc, voilà, le but de toute personne, bon, surtout les enfants, mais ça continue ensuite à l'âge adulte, c'est d'apprendre.
Est-ce que vous avez eu des soucis avec les inspecteurs qui viennent vérifier si vraiment vous faites un peu travailler vos enfants? Parce que, à la limite, c'est assez normal que la société vérifie que les enfants ne sont pas enfermés dans un placard chez eux et empêchés d'aller à l'école.
Bah, moi, justement, je ne trouve pas que ce soit normal de venir chez moi vérifier si mes enfants reçoivent bien une instruction. À ce moment-là, il faut venir chez moi dès le départ. Il faut venir chez moi dès que mes enfants naissent, vérifier qu'ils aient bien à manger, qu'ils vivent dans des conditions que l'on considérerait comme normales. Pourquoi venir chez moi me contrôler à ce moment-là? Moi, je ne trouve pas ça normal, non? Dans ma... Ouais. Bah non.
Vous, ça ne vous poserait pas de problème si la société se désintéressait des enfants?
Ça n'a rien à voir avec ça.
Pour voir si vraiment, vous, encore une fois, vous n'enfermez pas vos enfants dans un placard en leur donnant des cacahuètes, il faut bien faire quelque chose.
La plupart des enfants maltraités sont scolarisés. Quand un enfant sort de l'école et qu'il rentre chez lui, qu'il est enfermé dans un placard, ça arrive. Est-ce qu'on, pour autant, on vient chez toutes les familles françaises qui scolarisent leurs enfants, vérifier que l'enfant n'est pas enfermé dans un placard quand il est au retour de l'école?
Oui, enfin, c'est souvent justement des enfants maltraités qui vont à l'école, qui sont examinés par des infirmières scolaires, qui constatent des petits soucis... qui peuvent lancer aussi des alertes.
Peut-être, mais ce n'est pas une généralité du tout, on l'a bien souvent vu.
Mais alors vous, l'inspecteur, il est venu chez vous et...
Alors, moi, le principe de venir chez moi me contrôler, ça veut dire qu'on ne me fait pas confiance, donc ça me pose vraiment un très très gros problème. Il faut savoir qu'on reçoit des personnes de l'éducation nationale, donc des personnes qui appliquent un programme, qui ont des consignes. Donc quand elles viennent chez nous, elles font ce qu'elles font à l'école. Sauf que nous, justement, si on a déscolarisé nos enfants, c'est qu'on ne fait pas comme à l'école. Donc effectivement, on a des enfants qui vont apprendre à lire à 10, 11 ans, 12 ans. Moi, j'ai mon fils de Noé qui a 9 ans, mais qui écrit de façon tout à fait phonétique, donc il n'a absolument pas le niveau attendu et présumé d'un enfant du même âge. D'ailleurs, on va recevoir l'inspectrice vendredi prochain. Bon, jusqu'à présent, elle a été très respectueuse, elle a écouté ce que j'avais à lui dire sur la manière dont on instruit notre enfant. Elle ne l'a pas interrogé mon enfant, elle n'a pas fait de tests ni oraux, ni écrits. Et ça, c'est excessivement important. Mais c'est assez rare aussi que des personnes chargées des contrôles acceptent ces modalités-là. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, c'est on fait des exercices sur table, on fait des examens, on fait faire les évaluations. Et ça, c'est tout à fait illégal et absolument contre la liberté pédagogique des parents. Moi, je ne veux pas qu'on évalue mes enfants. Ça, c'est pas notre système.
C'est pas compliqué. Si on veut en savoir plus sur le fait d'instruire ses enfants par soi-même, il y a ce film qui sort mercredi, Être et devenir, un film de Clara Bellard.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais à demain.
Vous voyez la petite voiture rouge là-bas, loin devant vous ? Eh bien, dedans, il y a Vincent. Vincent a sur son pare-brise un badge télépéage Vinci Autoroute. Ce qui veut dire que non seulement il n'a pas attendu au péage, ce qui explique entre autres qu'il est devant vous, mais il a aussi accès de la même manière à plus de 200 parkings Vinci Park partout en France. Et comme si ça ne suffisait pas, son badge ne lui coûte rien les mois où il ne s'en sert pas. Il est malin, Vincent. Il est malin et il est devant vous.
Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition, disponible en espace client sur vinciautoroute.com.
Il est presque 16 heures. Vous êtes en chemin pour récupérer votre père à la gare. Vous vous dites que limiter cette départementale à 90 n'a pas de sens. Vous vous dites que rien ne vous empêche de rouler à 110. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, vous ne pourrez pas éviter ce tracteur à la sortie du virage. À cause de cet oubli, votre père vous attendra longtemps. Très longtemps.
On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables.
France Inter, partenaire de l'exposition Réenchanter le monde, architecture, ville, transition. L'exposition Manifeste sur l'avenir du monde habité est présentée actuellement à la Cité de l'architecture et du patrimoine jusqu'au 6 octobre. Les architectes exposés, issus de la nouvelle scène internationale, propulsent le débat au niveau mondial sur les questions des grandes transitions et leur effet sur la condition des hommes. Retrouvez l'exposition Réenchanter le monde, architecture, ville, transition dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Adieu au langage, le nouveau film de Jean-Luc Godard, en sélection officielle au Festival de Cannes, actuellement au cinéma.
Commençons par le commencement.
Les Indiens Apaches, la tribu des Chikawa, ils appellent le monde la forêt.
Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre.
Je ne dirai presque rien. Je cherche la pauvreté dans le langage.
Retrouvez Adieu au langage de Jean-Luc Godard dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h01. Les informations, Dominique Delaroy.
La victoire historique du Front National aux élections européennes, le FN qui aura 24 sièges d'eurodéputés sur les 74 attribués à la France, 20 pour l'UMP et 13 pour le PS. À l'Élysée, François Hollande a convoqué une réunion de crise ce matin avec Manuel Valls et les principaux ministres. Le chef de l'État à nouveau sévèrement désavoué et qui envisage une intervention télévisée dès aujourd'hui avant une réunion des 28 demain à Bruxelles. Mais le président de la République hésite encore. Gifle également pour l'UMP, distancé par le FN. Jean-François Copé joue sa survie à la tête du parti. Le président de l'UMP englué dans l'affaire Big Malion, la société fondée par deux de ses amis soupçonnés de favoritisme. Il affirme qu'il ne sait rien du tout de cette affaire et va porter plainte contre X dans la même affaire Big Malion. Le député Pierre Lellouche annonce qu'il porte plainte, lui, pour usurpation d'identité et juge que la direction de l'UMP doit changer. Certains fillonistes réclament d'ailleurs ouvertement la tête du président de l'UMP, tel Bernard Debré, pour qui Jean-François Copé doit partir avec une partie de son équipe. Enfin, Marine Le Pen tiendra mercredi une conférence de presse à Bruxelles avec ses alliés, la présidente du FN espère pouvoir constituer un groupe d'eurodéputés. Il lui faut 25 des eurodéputés issus de 7 pays différents pour former un groupe au Parlement européen à Strasbourg. Et à peine connus les premiers résultats de ces européennes, la bataille pour la présidence de la Commission a démarré. Jean-Claude Juncker s'est dépêché de revendiquer le poste. L'ancien Premier ministre luxembourgeois estime que la fonction de président de la Commission lui revient, mais il lui faudra pour cela être choisi par les 28 chefs d'État et de gouvernement qui se retrouvent donc demain à Bruxelles. Il n'y a pas eu d'erreur dans les commandes de trains. Déclaration de Frédéric Cuvillier, le secrétaire d'État aux transports, des trains dont la largeur supérieure à celle de leur prédécesseur, a nécessité de raboter certains quais. Frédéric Cuvillier a reçu le rapport qu'il avait demandé à la SNCF et à Réseau Ferré de France. Il exige cependant que dorénavant, toutes les commandes de trains soient conditionnées à des études sur leur impact pour les voies et les gares.
France Inter,
la nouvelle application pour mobile et tablette tactile.
Tout l'univers de votre radio dans votre poche.
France Inter en direct,
la réécoute de toutes les émissions
en téléchargeant dès maintenant sur votre mobile
la nouvelle application France Inter.
Et il est un peu plus de 16h03, bientôt 16h04, on retrouve le carrefour de l'Odéon avec vous Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy, et vous, ben on vous entendra à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il nous a quitté il y a un peu plus de 2 ans, le grand Maurice André, trompettiste fabuleux, et on réédite quelques enregistrements de 1958 à 1997. C'est chez Erato, le meilleur d'une vie, et c'est vraiment bien trouvé. On sait que Maurice André, il vient du pays d'Alès, dans le bassin minier. Il est né au pied des Cévennes, et la famille André, ben, c'était une famille simple. Le père était mineur aussi, mais il jouait de la trompette de temps en temps, la trompinette, comme disait Boris Vian. Et voilà, on les aimait bien, les André à Alès, c'était des gens honnêtes et travailleurs qui élevaient leurs enfants avec tendresse et fermeté. La femme, la mère est réservée, effacée presque, comme il se doit dans cette région dure, austère. Le père, c'est un courageux, il est mineur, un rude métier qui use prématurément, où l'accident n'est pas rare, il arrive qu'un coup de grisou tue. Mais voilà, dans cette famille-là, on a son allant, on a son entrain. C'est un passage très touchant du livre de Guy Touvron, grand disciple de Maurice André. C'est publié aux éditions du Rocher. Mais tout de suite, écoutons le cher Maurice, l'irremplaçable, dans le prélude du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Vous savez, le fameux thème de l'Eurovision. Le prélude du fameux Te Deum de Marc-Antoine Charpentier par Maurice André avec l'orchestre de chambre Jean-François Paillard dirigé par Louis Martini. Maurice, c'était la bonhomie, le bon sens populaire, une gouaille, une bouille aussi, et puis une trompette qui paraissait tellement facile alors qu'en fait il s'est toujours entraîné, il a toujours travaillé de manière extrêmement sérieuse bien sûr, comme on lui avait appris dans son beau pays, et il est allé au plus haut, c'est-à-dire par exemple enregistré avec l'orchestre philharmonique de Berlin et dirigé par Herbert von Karajan. Et il avait raconté ici même d'ailleurs au micro de France Inter, pas celui-ci parce que je rappelle qu'on est dans une maison rénovée totalement, mais enfin il était venu nous voir, il avait raconté que Karajan aimait enregistrer très vite et que Maurice lui avait dit mais là maître, il me semble que les violoncelles ne sont pas partis, ils n'ont pas... Moi, je suis Karajan, ça va aller très bien, on a fait un petit montage et puis tout y est. Et puis il faut admirer cette facilité, en tout cas ce qu'on peut en constater. Maurice, c'était la trompette faite homme, en voici la preuve dans le rondo du concerto de Johann Nepomuk Hummel.